Pierre Loti, Les derniers jours de Pékin. Dédicace à l'amiral Potier. À Monsieur le vice-amiral Potier, commandant en chef l'escadre d'Extrême-Orient. Amiral, les notes que j'ai envoyées de Chine au Figaro vont être réunies en un volume qui sera publié à Paris avant mon retour, sans qu'il me soit possible d'y revoir. Je suis donc un peu inquiet de ce que pourra être un tel recueil qui contiendra sans doute maintes redites. Mais je vous demande cependant de vouloir bien en accepter la dédicace comme un hommage du profond et affectueux respect de votre premier aide de camp. Vous serez d'ailleurs indulgent à ce livre plus que personne, parce que vous savez dans quelles conditions il a été écrit, au jour le jour, pendant notre pénible campagne, au milieu de l'agitation continuelle de notre vie de bord. Je me suis borné à noter les choses qui ont passé directement sous mes yeux au cours des missions que vous m'avez données et d'un voyage que vous m'avez permis de faire dans une certaine Chine jusqu'ici à peu près inconnue. Quand nous sommes arrivés dans la mer Jaune, Pékin était pris et les batailles finissaient. Je n'ai donc pu observer nos soldats que pendant la période de l'occupation pacifique. Là, partout, je les ai vus bons et presque fraternels envers les plus humbles Chinois. Puisse mon livre contribuer pour sa petite part à détruire d'indignes légendes éditées contre eux. Peut-être me reprocherez-vous, amiral, de n'avoir presque rien dit des matelots restés sur nos navires, qui ont été constamment à la peine, sans une défaillance de courage ni un murmure, pendant notre long et mortel séjour dans les eaux du Pechili. Pauvres séquestrés qui habitaient entre leurs murailles de fer. Ils n'avaient point comme leur chef pour les soutenir les responsabilités qui sont l'intérêt de la vie, ni le stimulant des résolutions graves à prendre. Ils ne savaient rien, ils ne voyaient rien, pas même dans le lointain la sinistre côte. Malgré la lourdeur de l'été chinois, des feux étaient allumés jour et nuit dans leurs cloîtres étouffants. Ils vivaient baignés d'humidité chaude, trempés de sueur, ne sortant que pour aller s'épuiser à des manœuvres de force, dans les canaux, par mauvais temps, parfois sur des mers démontées au milieu des nuits noires. Il suffit de regarder à présent leurs figures décolorées et maigries pour comprendre combien a été déprimant leur rôle obscur. Mais voilà, si j'avais compté la monotonie de leur fatigue, toujours pareille, et de leur dévouement silencieux de toutes les heures, personne n'aurait eu la patience de me lire. Pierre Loti. Chapitre 1. Arrivée dans la mer Jaune. Lundi 24 septembre 1900. L'extrême matin sur une mer calme et sous un ciel d'étoiles. Une lueur à l'horizon oriental témoigne que le jour va venir, mais il fait encore nuit. L'air est tiède et léger. Est-ce l'été du nord ou bien l'hiver des chauds climats? Rien en vue nulle part, ni une terre, ni un feu, ni une voile, aucune indication de lieu, une solitude marine quelconque, par un temps idéal, dans le mystère de l'aube indécise. Et comme un léviathan qui se dissimulerait pour surprendre, le grand cuirassé s'avance silencieusement, avec une lenteur voulue, sa machine tournant à peine. Il vient de faire environ 5 000 lieues, presque sans souffler, donnant constamment par minute 48 tours de son hélice, effectuant d'une seule traite, sans avarie d'aucune sorte et sans usure de ses rouages solides, la course la plus longue et la plus soutenue en vitesse qu'un monstre de sa taille ait jamais entreprise, et battant ainsi dans cette épreuve de fond des navires réputés plus rapides qu'à première vue on lui aurait préféré. Ce matin, il arrive au terme de sa traversée. Il va atteindre un point du monde dont le nom restait indifférent hier encore, mais vers lequel les yeux de l'Europe sont à présent tournés. Cette mer, qui commence de s'éclaircir si tranquillement, c'est la mer Jaune, c'est le golfe du Pechili, par où l'on accède à Pékin. Et une immense escadre de combat, déjà rassemblée, doit être là tout près, bien que rien encore n'en dénonce l'approche. Depuis 2 ou 3 jours, dans cette mer jaune, nous nous sommes avancés par un beau temps de septembre. Hier et avant-hier, des jonques aux voiles de natte ont croisé notre route, s'en allant vers la Corée. Des côtes, des îles nous sont aussi apparues, plus ou moins lointaines. Mais en ce moment, le cercle de l'horizon est vide de tous côtés. À partir de minuit, notre allure a été ainsi ralentie, afin que notre arrivée, qui va s'entourer de la pompe militaire obligatoire, n'ait pas lieu à une heure trop matinale, au milieu de cette escadre où l'on nous attend. 5 heures. Dans la demi-obscurité encore, éclate la musique du branle-bas, la gaie sonnerie de clairons qui chaque matin réveille les matelots. C'est une heure plus tôt que de coutume, afin qu'on ait assez de temps pour la toilette du cuirassé, qui est un peu défraîchi d'aspect par 45 jours passés à la mer. On ne voit toujours que l'espace et le vide. Cependant, la vigie, très haut perchée, signale sur l'horizon des fumées noires. Et ce petit nuage de houille, qui d'en bas n'a l'air de rien, indique là de formidables présences. Il est exhalé par les grands vaisseaux de fer. Il est comme la respiration de cette escadre sans précédent à laquelle nous allons nous joindre. D'abord la toilette de l'équipage avant celle du bâtiment. Pieds nus et torse nus, les matelots s'éclaboussent à grand eau dans la lumière qui vient. Malgré le surmenage constant, ils ne sont nullement fatigués, pas plus que le vaisseau qui les porte. Le redoutable est du reste, de tous ces navires si précipitamment partis, le seul qui, en chemin, dans les parages étouffants de la mer Rouge, n'ait eu ni mort, ni maladie grave. Maintenant le soleil se lève, tout net sur l'horizon de la mer, disque jaune qui surgit lentement de derrière les eaux inertes. Pour nous, qui venons de quitter les régions équatoriales, se lever, très lumineux pourtant, à je ne sais quoi d'un peu mélancolique et de déjà terni, qui sent l'automne et les climats du Nord. Vraiment, il est changé, ce soleil, depuis 2 ou 3 jours. Et puis, il ne brûle plus, il n'est plus dangereux, on cesse de s'en méfier. Là-bas, devant nous, sous le nuage de houille, des choses extra-lointaines commencent de s'indiquer, perceptibles seulement pour des yeux de marin. Une forêt de pics, dirait-on, qui serait plantée au bout, tout au bout de l'espace, presque au-delà du cercle où s'étend la vue. Et nous savons ce que c'est. Des cheminées géantes, de lourdes mâtures de combat, l'effrayant attirail de fer qui, avec la fumée, révèle de loin les escadres modernes. Quand notre grand lavage du matin s'achève, quand les seaux d'eau de mer lancés à tour de bras ont fini d'inonder toute chose, le redoutable reprend sa vitesse moyenne de 11,5 nœuds, qu'il avait gardée depuis son départ de France. Et pendant que les matelots s'empressent à faire reluire ses aciers et ses cuivres, il recommence de tracer son profond sillage sur la mer tranquille. Dans les fumées de l'horizon, les objets se démêlent et se précisent. On distingue sous les mâtures innombrables les masses de toutes formes et de toutes couleurs qui sont des navires. Posée entre l'eau calme et le ciel pâle, la terrible compagnie apparaît tout entière, assemblage de monstres étranges, les uns blancs et jaunes, les autres blancs et noirs, les autres couleurs de vase ou couleurs de brume pour se mieux dissimuler. Des dos bossus, des flancs à demi noyés et sournois, d'inquiétantes carapaces. Leur structure varie suivant la conception des différents peuples pour les machines à détruire, mais tous, pareillement, soufflent l'horrible fumée de houille qui ternit la lumière du matin. On ne voit toujours rien des côtes chinoises, pas plus que si on en était à 1000 lieues ou si elle n'existait pas. Cependant, c'est bien ici, Takou, le lieu de ralliement vers lequel, depuis tant de jours, nos esprits étaient tendus. Et c'est la Chine, très proche bien qu'invisible, qui attire par son immense voisinage cette troupe de bêtes de proie et qui les immobilise comme des fauves en arrêt sur ce point précis de la mer que l'on dirait quelconque. L'eau, en cette région de moindre profondeur, a perdu son beau bleu auquel nous venions si longuement de nous habituer. Elle devient trouble, jaunâtre, et le ciel pourtant sans nuages est décidément triste. La tristesse d'ailleurs se dégage au premier aspect de cet ensemble dont nous allons sans doute pour longtemps faire partie. Mais voici qu'en approchant, tout change, à mesure que monte le soleil, à mesure que se détaillent mieux les beaux cuirassés reluisants et les couleurs mêlées des pavillons de guerre. C'est vraiment une étonnante escadre qui représente ici l'Europe, l'Europe armée contre la vieille Chine ténébreuse. Elle occupe un espace infini, tous les côtés de l'horizon semblent encombrés de navires. Et les canaux, les vedettes à vapeur, s'agitent comme un petit peuple affairé entre les grands vaisseaux immobiles. Maintenant, les coups de canon partent de tous côtés pour la bienvenue militaire à notre amiral. Au-dessous du voile de fumée sombre, les gaies fumées claires de la poudre s'épanouissent en gerbes, se promènent en flocons blancs. Le long de toutes les mâtures de fer, montent et descendent en notre honneur des pavillons tricolores. On entend partout les clairons sonner, les musiques étrangères jouer notre Marseillaise, et on se grise un peu de ce cérémonial, éternellement pareil, mais éternellement superbe, qui emprunte ici une magnificence inusitée au déploiement de ses flottes. Et puis le soleil à la fin s'est réveillé et flamboie, nous apportant pour notre jour d'arrivée une dernière illusion de plein été, dans ce pays aux saisons excessives qui, avant 2 mois, commencera de se glacer pour un long hiver. Quand le soir vient, nos yeux, qui s'enlaceront bientôt, s'amusent cette première fois de la féerie à grand spectacle que les escadres nous donnent. L'électricité s'allume soudainement de toutes parts, l'électricité blanche ou verte ou rouge ou clignotante ou scintillante à éblouir. Les cuirassés, au moyen de jeux de lumière, causent les uns avec les autres et l'eau reflète des milliers de signaux, des milliers de feux, pendant que les longues gerbes des projecteurs fauchent l'horizon ou passent dans le ciel comme des comètes en délire. On oublie tout ce qui couve de destruction et de mort sous ces fantasmagories dans des flancs effroyables. On est pour l'instant comme au milieu d'une ville immense et prodigieuse qui aurait des tours, des minarets, des palais et qui se serait improvisée par fantaisie en cette région de la mer pour y donner quelques fêtes nocturnes extravagantes. 25 septembre. Nous ne sommes qu'au lendemain. Et déjà rien ne se ressemble plus. Dès le matin, la brise s'est levée, à peine de la brise, juste assez pour coucher sur la mer les grands panaches obscurs des fumées. Et déjà les lames se creusent dans cette rade ouverte, peu profonde, et les petites embarcations en continuel va-et-vient sautillent, inondées d'embrun. Cependant, un navire aux couleurs allemandes arrive lentement du fond de l'horizon, comme nous étions arrivés hier. C'est la Hertha, tout de suite reconnue, amenant le dernier des chefs militaires que l'on attendait à ce rendez-vous des peuples alliés, le feld-maréchal de Waldersee. Pour lui, recommencent alors les salves qui nous avaient accueillis la veille, tout le cérémonial magnifique. Les canons de nouveau épandent leurs nuages, mêlent des ouates blanches aux fumées noires, et le chant national de l'Allemagne, répété par toutes les musiques, s'éparpille dans le vent qui augmente. Il souffle toujours plus fort, ce vent, plus fort et plus froid, mauvais vent d'automne, affolant les baleinières, les vedettes, tout ce qui circulait hier si aisément entre les groupes d'escadres. Et cela nous présage de tristes et difficiles jours, car sur cette rade incertaine qui devient dangereuse en une heure, il va falloir débarquer des milliers de soldats envoyés de France, des milliers de tonnes de matériel de guerre. Sur l'eau remuée, il va falloir promener tant de monde et tant de choses, dans des chalands, dans des canots, par les temps glacés, même par les nuits noires, et les conduire à tout-coup, par-dessus la barre changeante du fleuve. Organiser toute cette périlleuse et interminable circulation, ce sera là surtout, pendant les premiers mois, notre rôle à nous, marins, rôle austère, épuisant et obscur, sans apparente gloire. Chapitre 2 à Ninghai, 3 octobre 1900. Dans le fond du golfe de Pechili, la grève de Ninghai, éclairée par le soleil levant. Des chaloupes sont là, des vedettes, des baleinières, des jonques, l'avant piqué dans le sable, débarquant des soldats et du matériel de guerre au pied d'un immense fort dont les canons restent muets. Et c'est sur cette plage une confusion et une babel comme on n'en avait jamais vu aux précédentes époques de l'histoire. À l'arrière de ces embarcations, d'où descend tant de monde, flottent pêle-mêle tous les pavillons d'Europe. La rive est boisée de bouleaux et de saules, et au loin les montagnes, un peu bizarrement découpées, dressent leurs pointes dans le ciel clair. Rien que des arbres du nord, indiquant qu'il y a dans ce pays des hivers glacés, et cependant le soleil matinal déjà brûle, les cimes là-bas sont magnifiquement violettes, la lumière rayonne comme en Provence. Il y a de tout sur cette grève, parmi des sacs de terre qu'on y avait amoncelés pour de hâtives défenses. Il y a des Cosaques, des Autrichiens, des Allemands, des midshipmen anglais à côté de nos matelots en armes, des petits soldats du Japon, étonnants de bonne tenue militaire dans leurs nouveaux uniformes à l'européenne. Des dames blondes de la Croix-Rouge de Russie, affairées à déballer du matériel d'ambulance. Des bersaglieri de Naples, ayant mis leurs plumes de coq sur leur casque colonial. Vraiment, dans ces montagnes, dans ce soleil, dans cette limpidité de l'air, quelque chose rappelle nos côtes de la Méditerranée par les beaux matins d'automne. Mais là, tout près, une vieille construction grise sort des arbres, tourmentée, biscornue, hérissée de dragons et de monstres, une pagode. Et sur les montagnes du fond, cette interminable ligne de remparts qui serpente et se perd derrière les sommets, c'est la grande muraille de Chine, confinante à la Mandchourie. Ces soldats qui débarquent pieds nus dans le sable et s'interpellent gaiement en toutes les langues ont l'air de gens qui s'amusent. Cela se nomme une prise de possession pacifique, ce qu'ils font aujourd'hui. Et on dirait quelques fêtes de l'universelle fusion, de l'universelle concorde. Tandis que, au contraire, non loin d'ici, du côté de Tientsin et du côté de Pékin, tout est en ruine et plein de cadavres. La nécessité d'occuper Ninghai pour en faire au besoin la base de ravitaillement du corps expéditionnaire s'était imposée aux amiraux de l'escadre internationale, et avant-hier, on se préparait au combat sur tous nos navires, sachant les forts de la côte armés sérieusement. Mais les Chinois d'ici, avisé par un parlementaire qu'une formidable compagnie de cuirassés apparaîtrait au lever du jour, ont préféré rendre à discrétion la place, et nous avons trouvé en arrivant le pays désert. Le fort qui commande cette plage et qui termine la grande muraille au point où elle vient aboutir à la mer, a été déclaré international. Les pavillons des 7 nations alliées y flottent donc ensemble, rangés par ordre alphabétique, au bout de longues hampes que gardent des piquets d'honneur. Allemagne, Autriche, Grande-Bretagne, France, Italie, Japon, Russie. On s'est partagé ensuite les autres forts disséminés sur les hauteurs d'alentour, et celui qui a été dévolu aux Français est situé à 1 mille environ du rivage. On y va par une route sablonneuse, bordée de bouleaux, de saules aux feuillages frêles, et c'est à travers des jardins, des vergers, que l'automne a jauni en même temps que ceux de chez nous. Des vergers qui d'ailleurs ressemblent parfaitement aux nôtres, avec leurs humbles carrés de choux, leurs citrouilles et leurs alignements de salade. Les maisonnettes aussi, les maisonnettes de bois aperçues çà et là dans les arbres, imitent à peu près celles de nos villages, avec leurs toits en tuiles rondes, leurs vignes qui font guirlande, leurs petits parterres de zinnia, d'astères et de chrysanthèmes. Des campagnes qui devaient être paisibles, heureuses, et qui depuis 2 jours se sont dépeuplées en grande épouvante à l'approche des envahisseurs venus d'Europe. Par ce frais matin d'octobre, sur la route ombragée qui mène au fort des Français, les matelots et les soldats de toutes les nations se croisent et s'empressent dans le grand amusement d'aller à la découverte, de s'ébattre en pays conquis, d'attraper des poulets, de faire main basse dans les jardins, sur les salades et les poires. Des Russes déménagent les bouddhas et les vases dorés d'une pagode. Des Anglais ramènent à coups de bâton des bœufs capturés dans les champs. Des marins de la Dalmatie et d'autres du Japon, très camarades depuis 1 heure, font en compagnie leur toilette au bord d'un ruisseau. Et 2 bersaglieri, qui ont attrapé un petit âne en se pâmant de rire, s'en vont ensemble à califourchon dessus. Cependant, le triste exode des paysans chinois, commencé depuis hier, se poursuit encore. Malgré l'assurance donnée qu'on ne ferait de mal à personne, ceux qui étaient restés se jugent trop près et aiment mieux fuir. Des familles s'en vont tête basse, hommes, femmes, enfants, vêtus de pareilles robes en coton bleu, et tous chargés de bagages, les plus bébés même charriant des paquets, emportant avec résignation leurs petits oreillers et leurs petits matelas. Et voici une scène pour fendre l'âme. Une vieille chinoise, vieille, vieille, peut-être centenaire, pouvant à peine se tenir sur ses jambes, s'en va, Dieu sait où, chassée de son logis où vient s'établir un poste d'Allemand. Elle s'en va, elle se traîne, aidée par 2 jeunes garçons qui doivent être ses petits-fils et qui la soutiennent de leur mieux, la regardant avec une tendresse et un respect infinis. Sans même paraître nous voir, comme n'ayant plus rien à attendre de personne, elle passe lentement près de nous, avec un pauvre visage de désespoir, de détresse suprême et sans recours, tandis que les soldats, derrière elle, jettent dehors avec des rires les modestes images de son hôtel d'ancêtre. Et le beau soleil de ce matin d'automne resplendit tranquillement sur son petit jardin très soigné, fleuri de zinnia et d'astères. Le fort échu en partage aux Français occupe presque l'espace d'une ville, avec toutes ses dépendances, logements de mandarins et de soldats, usines pour l'électricité, écuries et poudrières. Malgré les dragons qui en décorent la porte, et malgré le monstre à griffes que l'on a peint devant l'entrée sur un écran de pierre, il est construit d'après les principes les plus nouveaux, bétonné, casematé et garni de canons croupes du dernier modèle. Par malheur pour les Chinois qui avaient accumulé autour de Ninghai d'effroyables défenses, mines, torpilles, fougasses et camps retranchés, Rien n'était fini, rien n'était à point nulle part. Le mouvement contre l'étranger a commencé 6 mois trop tôt, avant qu'on ait pu mettre en batterie toutes les pièces vendues à Li Hongshang par l'Europe. 1000 de nos zouaves qui vont arriver demain occuperont ce fort pendant l'hiver. En attendant, nous venons y conduire 20aine de matelots pour en prendre possession. Et c'est curieux de pénétrer dans ces logis abandonnés en hâte et en terreur, au milieu du désarroi des fuites précipitées, parmi les meubles brisés, les vaisselles à terre. Des vêtements, des fusils, des baïonnettes, des livres de balistique, des bottes à semelles de papier, des parapluies et des drogues d'ambulance sont pêle-mêle, en tas devant les portes. Dans les cuisines de la troupe, des plats de riz attendent encore sur les fourneaux, avec des plats de choux et des gâteaux de sauterelles frites. Il y a surtout des obus roulant partout, dégringolant des caisses éventrées, des cartouches jonchant le sol, du fulmicoton dangereusement épars, de la poudre répandue en longues traînées couleur de charbon. Mais à côté de cette débauche de matériel de guerre, des détails drôles viennent attester les côtés de bonhomie de l'existence chinoise. Sur toutes les fenêtres, des petits pots de fleurs. Sur tous les murs, des petites images collées par des soldats. Au milieu de nous, se promènent des moineaux familiers que sans doute les habitants du lieu n'inquiétaient jamais. Et des chats sur les toits, circonspects, mais désireux d'entrer en relation. Observe quelle sorte de ménage on pourra bien faire par la suite avec les hôtes imprévus que nous sommes. Tout près, à 100 mètres de notre fort, passe la grande muraille de Chine. Elle est surmontée en ce point d'un mirador de veille où des Japonais s'établissent à 7 heures et plantent sur un bambou leur pavillon blanc à soleil rouge. Très souriant toujours, surtout pour les Français, les petits soldats du Japon nous invitent à monter chez eux pour voir de haut le pays d'alentour. La grande muraille, épaisse ici de 7 à 8 mètres, descend en talus et en herbage sur le versant chinois, mais tombe verticale sur le versant mandchou, flanqué d'énormes bastions carrés. Maintenant donc, nous y sommes montés, et sous nos pieds, elle déploie sa ligne séculaire qui d'un côté plonge dans la mer jaune, mais de l'autre s'en va vers les sommets, s'en va serpentant bien au-delà du champ profond de la vue, donnant l'impression d'une chose colossale qui ne doit nulle part finir. Vers l'est, on domine dans la pure lumière les plaines désertes de la Mandchourie. Vers l'ouest, en Chine, les campagnes boisées ont un aspect trompeur de confiance et de paix. Tous les pavillons européens, arborés sur les forts, prennent au milieu de la verdure un air de fête. Il est vrai, dans une plaine, au bord de la plage, s'indique un immense grouillement de cosaques, mais très lointain, et dont la clameur n'arrive point ici. 5000 hommes pour le moins, parmi des tentes et des drapeaux fichés en terre. Quand les autres puissances envoient à Ninghai quelques compagnies seulement, les Russes, au contraire, procèdent par grandes masses à cause de leurs projets sur la Mandchourie voisine. Là-bas, toute grise, muette et comme endormie entre ses hauts murs crénelés, apparaît Shanghai Quan, la ville tartare qui a fermé ses portes dans l'effroi des pillages. Et sur la mer, près de l'horizon, se reposent les escadres alliées, tous les monstres de fer aux fumées noires, amis pour l'instant et assemblés en silence dans du bleu immobile. Un temps calme, exquis et léger. Le prodigieux rempart de la Chine est encore fleuri à cette saison comme un jardin. Entre ces briques sombres, disjointes par les siècles, poussent des graminées, des astères et quantité d'œillets roses pareils à ceux de nos plages de France. Sans doute, elle ne reverra plus flotter le pavillon jaune et le dragon vert des célestes empereurs, cette muraille légendaire qui avait arrêté pendant des siècles les invasions du Nord. Sa période est révolue, passée. finie à tout jamais.